Vous écoutez
RMC.
RMC.
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Welcome, Silvinho. Are you okay? And are you happy to be?
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we'll go to fish. Huh?
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue en direct jusqu'à minuit sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. N'hésitez pas à vous joindre à nous, à la radio, à la télé. L'After, première radio de France ce soir, l'After espèce de liberté pour tous les supporters, acteurs du foot. Vous êtes là au 32-16, appelez-nous. Manu Petit est là ce soir, salut Manu.
Bonsoir tout le monde.
Et Daniel Riolo est là également, salut Daniel.
Salut les amis. Salut.
On s'est régalé, on va analyser les matchs du soir. 10 buts. Ce soir en deux matchs de quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est le football des années 50, c'est la folie.
Ça m'a reconcilié avec la Super League.
Ah bon?
Non, je rigole.
Ah bon. Les drôles de dames seront là dans quelques instants. Il y aura également l'actu du jour, veille de match de PSG, plus ce qui se passe à Lisbonne pour les supporters marseillais. Tout ça jusqu'à minuit au 32-16. Appelez-nous, écrivez-nous également sur Direct Studio, notre messagerie, sur les applis RMC et RMC Sport. Bon, petite considération générale, les gars, avant d'entrer dans les deux matchs, parce qu'on est obligé un peu de comparer avec l'adversité de demain pour Paris. Demain il y a Paris Barcelone. Là vous voyez le niveau là ce soir là,
l'intensité,
ça donne le vertige ou
Bah l'intensité était juste incroyable dans les deux matchs quoi. Ça allait d'un but à l'autre. Quand je regarde les kilomètres parcourus par les joueurs, regarde la moyenne quand même hein, le match Real Madrid City, il y a quand même beaucoup de joueurs qui dépassent les 10 kilomètres. C'est rare d'avoir autant de joueurs qui dépassent, qui font autant de kilomètres sur le terrain.
Mais moi, avant de me prononcer et de comparer, j'attends demain. On verra demain. On va voir demain quel match le PSG est capable de livrer, le Barça de la même façon et dans l'autre match. Moi, ce soir, je me contente de regarder ce soir. J'ai passé une soirée. Honnêtement, j'arrêtais pas de me dire qu'est-ce que c'est terrible que les deux matchs soient en même temps.
Bah oui.
Je disais ça avant la rencontre et alors pendant, j'en pouvais plus quoi. J'ai terminé avec les yeux, je savais plus regarder. C'était
pareil.
C'était une souffrance parce que les deux matchs étaient extraordinaires. Alors bon, j'avais opté pour match 1 Real City, match 2 Arsenal Bayern. Je sais même pas si j'ai fait le bon choix, mais je crois que je m'en fous parce
que celui de Madrid est un cran au-dessus.
Ouais. Toi, t'as dû faire choix un Arsenal, le cœur un peu peut-être.
Bah, nous, on a suivi les deux matchs, mais le match de Real City, enfin, il y a pas eu de temps mort, quoi.
Non, c'était
deux matchs
incroyables.
Être milieu de terrain dans
deux
ce match
incroyable. Il y avait tout. On peut parler de tactique, on peut parler de qualité individuelle, on peut parler d'émotion, de rebondissement. Il y avait absolument tout dans ces matchs-là. Les buts, évidemment, les réalisations individuelles fantastiques. Il y a des bons joueurs. On va bien en trouver un ou deux qui ont été en dessous ce soir, mais globalement, dans chaque équipe, t'as quand même eu que des gars qui ont fait des gros matchs. Voilà, on peut y aller quand vous voulez. Après une soirée pareille, c'est une régalade.
On en redemande.
C'est la Ligue des Champions. En même temps, c'est ce qu'on adore hein, quand elle arrive. Les huitièmes, c'est toujours un peu en deçà. T'as que un ou deux huitièmes qui sont vraiment bien. Et puis là, quand arrivent les quarts de finale, voilà, on est dans le gratin là. Ça y est, on n'est plus dans les patates au fond du plat, hein, Manu.
Non, mais moi, il y a pas mal de choses que j'ai adorées dans les deux matchs. Mais c'est surtout les frappes, parce que on a de moins en moins de frappes à l'extérieur de la surface de réparation au plus haut niveau. Et là, ce soir, ça a été un festival, quoi.
Ouais, mais pour mettre des frappes comme ça, Manu, tu le sais, c'est que techniquement, t'es au point.
Parce que mais il y a une prise d'initiative, ouais, Guardiola, jamais tu l'attends à ce niveau-là.
La frappe, c'est un geste technique. La passe de Vinicius pour le but de Valverde, c'est somptueux. De la passe à la finition, c'est magnifique.
Et Foden, le scénario est coquin, quoi.
Foden, c'est seul, mais sa frappe, elle est sublime, tout.
Moi, j'adore le scénario, quoi.
Après, vous voulez.
Derrière,
on va pas faire 3 points, j'ai bien ce soir.
On peut pas faire un freestyle sur les
impressions.
Ouais, alors, on va démarrer par le match Real City,
allez.
D'autant que Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Julien. T'es régalé ?
Toi, t'as vu un moment où les deux clubs anglais étaient menés quand même.
Oui, étaient menés, c'est vrai. Mais j'ai jamais paniqué.
Bon, bah, t'as bien fait.
La première période, allez, moi, j'opte pour qu'on commence par ça. La première période de Real City, ce que fait le Real, je sais pas pour toi, Julien, en tout cas, moi, je sais pas si je m'y attendais. Je sais que c'est une équipe qui nous, alors, moi, c'est une équipe qui m'épate régulièrement, je le dis, pas tant pour ce qu'elle réalise globalement, c'est le caractère qu'elle a.
Elle est injouable à domicile.
Le caractère de cette équipe, ça, je ne sais pas comment expliquer ça, sa personnalité. Genre, nous ici, l'Europe, vous pouvez, City, vous êtes meilleur, tout le monde dit que vous êtes meilleur. Tactiquement, vous avez un coach, un génie. Vous faites ce que vous voulez, venez, baladez-vous, faites vos passes, machin. Mais nous, on est les tauliers. Et on a un caractère, on a une personnalité. On ne va pas perdre, on ne s'écrasera pas, on réagira. Et franchement, sur la première période, ils m'ont épaté. Mais sur la deuxième, quand
ils sont moins bien.
Vu les efforts physiques
faits
dans cette première période.
De 3 à 2, je me suis dit, ils vont s'écrouler.
Dans cette première période qui a été, de mon point de vue, côté Real, admirable, je me suis dit, c'est fini. Ils vont exploser physiquement. Et quand il y a le 3-2, je dis, ça va finir en 4-2. J'ai peur pour le Real. Eh ben non, ils m'ont remis le coup. Ben, qu'est-ce que t'as dit? Je croyais que tu kiffais leur personnalité, le caractère, t'as oublié? Ben non, j'ai pas oublié. T'as eu Vinicius, Valverde, hop, un but magnifique. Et encore une fois, ils ont montré ce qui fait leur force, je pense. C'est ce caractère. Mais c'est ce qu'insuffle Ancelotti. Elle ressemble à Ancelotti. Il a toujours bossé là-dessus.
C'est le club, en fait.
Ça, c'est la dimension historique.
C'est le club qui impressionne à chaque fois, pas simplement les acteurs sur le terrain, mais également le corps arbitral. On a eu à maintes reprises des polémiques à ce niveau-là.
Bon, voilà, pas ce soir.
Mais je pense que le Real Madrid, à domicile, dans cette compétition, qui est leur compétition, c'est leur compétition reine, ils sont la référence en Europe. Tu sais qu'à tout moment, ils peuvent renverser la table.
Ouais, c'est.
Et c'est ancré dans la tête des joueurs, même les plus grandes équipes, les plus grands joueurs qui viennent sur la pelouse à Madrid, ils le savent qu'à tout moment, ça peut s'inverser.
Après le match retour. Bah écoute, City sera à domicile, moi je les mets favoris, mais ça va être comme l'année dernière, ils en ont pris une belle, le Real là-bas, ils disent écoutez, si vous êtes plus fort, vous êtes plus fort, montrez-le nous. Mais nous, et moi je pense qu'individuellement, le City est supérieur, en qualité individuelle, si tu prends la globalité des joueurs. Bah, il faudra encore une fois qu'ils aillent le gagner, le match à la maison la semaine prochaine, parce que le Real ne baissera jamais la tête.
Julien, t'es d'accord là-dessus? Tu sens City, toi, au-dessus aussi?
Je suis pas complètement d'accord, moi, avec Daniel là-dessus.
Alors, Julien, David, Julien et ensuite Manu. Julien.
Ce match aller, moi, il me rappelle beaucoup celui de la saison dernière, la demi-allée, qui finit un partout, donc c'est pas le 3-3, mais même si tu regardes les stats de la saison dernière et la physionomie du match et celle de, d'ailleurs, le but de Vinicius est assez similaire au but de Camavinga de l'autre côté, sans que la frappe soit déviée, mais c'est un peu pareil. L'action est construite de la même façon, surtout celui de Rodrigo, pardon. Et finalement, les stats sont même similaires. Moi, je suis d'accord avec ce que Daniel et Manu ont dit, bien sûr. Moi, ce qui m'épate le plus, en revanche, côté City, c'est qu'à un moment, quand tu prends des contre-attaques et des transitions comme ça, offensives de la part du Real, défensives chez toi, à travers la première période, et que tu te fais trouer quasiment presque à chaque fois, donc surtout sur le but de Rodrigo, mais après il y en a plusieurs pour Vinicius, pour Rodrigo, ça aurait été facile pour Guardiola de dire bon bah les gars, on va rejouer plus bas, on va faites baisser le bloc de 20 mètres, de 25 mètres, de 30 mètres, on va changer quelque chose parce que là c'est pas possible. Et ben non, ils ont continué même en seconde période à faire pareil, parce qu'à un moment je pense qu'ils savaient, pour revenir sur le talent individuel dont Daniel parlait, ils savaient qu'à un moment tu peux pas jouer comme ça non plus contre City pendant 90 minutes, c'est impossible. Il y a un moment où physiquement tu peux plus ne pas avoir le ballon. Le Real Madrid en première période, c'est 35% de possession à domicile.
Mais grâce au physique, comme tu disais, et au pressing intense qu'ils étaient capables de mettre, même en étant bloc bas, ils faisaient un énorme pressing. Et à chaque fois qu'ils sortaient, les sorties de balles, moi je les ai trouvées parfaites. Avec les individualités telles Vinicius ou Rodrigo, où t'avais le sentiment qu'à 1 contre 2, ils passaient à tous les coups.
Ouais.
Même en infériorité numérique, ça passait. T'étais là, t'étais à la fois épaté, et moi j'étais épaté par ce qu'ils ont fait. Et je me disais, mais ils peuvent le faire tout un match, ça? Parce que s'ils le font tout un match, ils vont m'épater x2. Bon, ils ne l'ont pas fait. Et comme tu dis, c'est la grande force de City. Alors, on peut en parler, Manu, si tu dis. Individuellement, si tu prends tous les... Tu ne vois pas plus de technique à chaque poste pour City. Moi, je trouve qu'il y a des endroits où il y a des failles. Tu vois, on n'y peut rien. Tu vois, Mini, ce n'est pas un défenseur central. À un moment, tu te dis qu'il va...
D'ailleurs, le premier but,
il est pour lui.
Le jaune qui prend aussi.
Le premier but, il est pour lui. Parce qu'il sort mal, parce que, enfin, il est pour lui, avec le bémol d'indulgence que c'est pas son poste, même s'il y a déjà joué, même s'il a pas mal dépanné ces derniers temps, mais en plus, d'une, il aime pas trop le faire, et deux, je crois pas qu'il soit vraiment fait pour ce poste-là. Mais déjà, dans un match de Ligue des Champions, quand un but, tu le prends déjà pour toi, c'est compliqué individuellement.
Non, mais je là-dessus,
après,
je
Ferland Mendy, c'est moins fort que
Si tu parles des Français, Camavinga, le marquage sur Foden, c'est pour lui aussi.
Voilà. Mais si tu parles de l'aspect technique, Daniel, moi j'étais surpris aussi du déchet technique affiché de certains joueurs de City aujourd'hui, à commencer par Rodri.
en première période.
Oui, c'est, ouais, en première période, il a perdu beaucoup. Je suis d'accord, Rodri, c'est rare de le voir comme ça.
C'est pour ça, je te dis, est-ce que c'est parce qu'il y avait le Real en face ou parce que Rodri était moins bien dans ce match-là?
Le pressing était... Oui, mais ça, moi, je sais pas, au-delà de ce soir, si tu fais un ensemble des deux matchs, ce pourquoi je me dis que le retour tournera en faveur de City, c'est certainement pour ça. C'est
que globalement, ils sont souvent injouables également, bah, hein, City. Hein.
Voilà, avec leur technique, avec, parce que oui, il y a pas mal de joueurs qui ont déçu. Haaland a déçu, Rodri a déçu.
Haaland est détributeur de ses coéquipiers, on l'a pas vu encore aujourd'hui.
Des ballons, De Bruyne n'était pas là. Et cette histoire de gastro, c'est vrai.
Il y a un truc qui m'inquiète, en fait.
Il y a un problème.
Vas-y, Julien.
Un petit peu des deux, je crois, Daniel. Un petit peu des deux. Je crois qu'il y a, effectivement, il s'est pas senti très bien, on m'a dit, cet après-midi. Mais il y a ce débat qui revient, dont on parlait hier dans l'after, dont on en parlait tout à l'heure dans l'avant-match aussi, quoi, sur le rôle de Foden dans l'axe et le rôle de De Bruyne dans l'axe. Et à un moment, tu peux, bien sûr, tu peux mettre Foden sur un côté. Mais Foden sur un côté, dans un match comme celui de ce soir-là, il a, surtout quand tu perds le ballon, il a pas du tout le même impact qu'un Bernardo Silva peut avoir. Alors, d'accord, en première période, ils se sont fait trouer parfois.
Je comprends pas, Julien, ce que tu veux dire. Tu es en train de dire en fait, que tu peux pas mettre Foden et De Bruyne dans l'axe, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Guardiola le fait jamais.
Tu peux pas mettre Foden comme il jouait quand De Bruyne jouait aussi, c'est-à-dire sur le côté, à la place de Grealish.
Quand il y avait Silva qui jouait avec De Bruyne, ça posait pas problème.
Moi, Grealish, je l'enlève, je mets Foden et je mets De Bruyne à sa place.
Oui, mais Julien, j'inverse le truc. Guardiola, il va pas se cacher. S'il veut mettre De Bruyne sur le banc, il va pas lui inventer une gastro.
Non, non, c'est pour ça. Mais je pense que oui, oui, t'as raison aussi. T'as raison là-dessus. Mais
oui, non, mais est-ce que la gastro est officielle? Parce que la gastro est sortie de rumeurs, mais sans qu'on ait une information réelle là-dessus.
Surtout après le match qui te fait Crystal Palace, de Bruyne, même si ça reste Crystal Palace, on est loin du niveau de Real Madrid.
Mais moi, je pense que, enfin, j'étais convaincu qu'il allait faire débuter les deux et que Foden jouerait sur un côté et De Bruyne dans l'axe.
Moi, j'étais déçu de Grealish, en fait, dans ce match-là. Pendant longtemps, j'étais déçu de Foden également, jusqu'à son éclair. Mais moi, je trouve Grealish vachement prévisible. Il fait toujours la même chose, en fait.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
Et c'est redondant, en fait. Regarde, c'est facile à défendre.
Il y a deux bonnes positions de frappe en première période, dans la surface ou
dans la première. Non, mais on a l'impression que ses frappes vont partir. Il a juste la position.
On parle du secteur offensif, mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est les carences sur le domaine défensif affiché de City. Ça me rappelle un peu City il y a quelques années, quand ils prenaient des vagues constamment sur les transitions rapides de leurs adversaires. Je trouve que City laisse à chaque match, même en Première Ligue, beaucoup trop d'occasions à l'adversaire.
Ouais, j'ai dit hier soir, tu as raison, à la Villa.
Alors, Guardiola vient d'expliquer que De Bruyne se sentait prêt pendant la journée, mais quand il s'est arrivé dans les vestiaires, il a vomi. Et là, il a dit forcément. Non, en fait, ça forcément. Va pas.
Bah, on va pas dire que c'est la pression quand même, le gars.
Non, la pression, il est malade. Et s'il a une gastro, il a une gastro.
Après, si c'est ça l'histoire. Il était pas trop malade parce qu'il était sur le banc avec tout le monde, donc il a refilé à tout le monde la gastro.
Bah voilà.
Oui, c'est vrai que même sans masque en plus.
Si t'es vraiment malade, tu restes à l'hôtel et tu vas pas.
En sachant les échanges du CETI, je suis le staff médical. J'évite que De Bruyne soit au contact de ses coéquipiers, quoi.
Non, mais il y a pas de mytho, donc il était vraiment malade. Non, parce que il y avait un doute. Je sais pas, est-ce que c'était plus de l'ordre de la rumeur, d'un début de mini embrouille avec De Bruyne et Guardiola, Julien, je sais pas s'il y avait quelque chose là-dessus. Je sais pas pourquoi ça circulait, qu'il est possible qu'il soit sur le banc. Enfin bon, écoute.
Ouais, non, mais il y a ce débat sur la place de Foden et la place de De Bruyne et les deux ensemble et qui au numéro 10 et.
Moi, je vois pas comment on peut se passer de De Bruyne à moins qu'il lui manque une jambe.
Et de Foden aussi.
Oui, Foden excentré, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai, mais après, ils sont prêts à jouer comme ça. On a après le match de Foden contre
Là aujourd'hui sur un match de Ligue des Champions de top niveau entre De Bruyne et Foden, pour vous il y a moi Foden, il faut qu'il m'ait fait un grand match, enfin qu'il soit fort en championnat cette année.
Non, mais en fait, on veut les deux.
Il est au-dessus. Non mais si le débat doit véritablement être
aussi, il fait sur la différence Foden. Hein.
La saison dernière, il a débuté aucun match en phase éliminatoire.
Voilà, je veux dire, moi, je parle de Ligue des Champions à partir des quarts de finale, ce qui est toujours différent d'un match de championnat. Pour l'instant, De Bruyne, il a une antériorité des antécédents qui sont plus marquants.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il y a eu quelques matchs où il était moins bien, qu'il a été blessé, mais quand arrive vraiment l'heure de vérité du mois d'avril, pour l'instant, à moins qu'on me montre le contraire, De Bruyne, pour moi, il a toujours la priorité. Pour moi, il est toujours top 3 monde, De Bruyne. C'est un joueur... après, si demain, il se fatigue, s'il est moins performant...
Moi, j'aurais pas commencé avec Grealish. Parce que Grealish, ça fait un paquet de temps.
Si tu me parles de Grealish, je suis d'accord avec toi.
Il est loin du niveau affiché l'année dernière.
Voilà, exactement.
Et je trouve que Doku aurait été beaucoup plus intéressant en percussion sur le côté.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bizarre aussi que Pep attende aussi longtemps.
Grealish, est-ce qu'il s'est remis de la fiesta post Ligue des Champions? J'ai l'impression qu'il est toujours à la soirée.
Un peu mieux ces derniers matchs.
J'ai l'impression qu'il est
juste pour finir sur De Bruyne.
Il s'est pris une soufflante contre Arsenal de la part de Pep Guardiola. Une explication de texte en fin de match. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il l'a attrapé.
Il était entré en jeu. Parce que Foden est titulaire à droite. à gauche, pardon, dans ce match d'Arsenal, il touche à peine le ballon.
Mais c'est bizarre parce que Guardiola, il a ce truc parfois d'avoir une grande sévérité avec des tops et avec des mecs que je considère pas être des tops absolus, quoi, comme Grealish, il va être un petit peu plus indulgent.
Non, mais tu sais, à la fin des matchs, il aime bien aller voir les joueurs et devant les caméras, devant tout le monde, tu sais.
Il aime bien faire ça devant les caméras.
Dans tous les sens, il adore
prendre à partie ses joueurs pour que derrière, ça crée justement une espèce de polémique dans la presse pour remettre en question ce joueur, pour que derrière, il y ait une prise de conscience du joueur et qu'il se bouge le cul, en fait. Dire, en général, il va voir le gars dont il n'est pas satisfait.
Ouais, sur ce match-là, il n'était pas satisfait du replacement, l'utilisation du ballon, il avait perdu, surtout du replacement défensif. Et il l'a signifié à maintes reprises. Moi, j'étais au stade, j'étais juste derrière le banc. Je le voyais à chaque fois s'en prendre à lui, verbalement. Et puis à la fin du match, il l'a chopé devant les caméras.
Tu parlais des... Oui, effectivement, un seul changement, la 87e. Tu disais... Ouais,
toi aussi, quand t'en as 5, que t'es
c'est devenu une habitude, en fait.
Souvent, il le fait. D'ailleurs, souvent,
qu'il le fait, mais c'est étonnant pour un gars qui maîtrise autant et qui met en avant la tactique, les changements possibles, d'en faire aussi peu, et surtout sur un tel match. C'est bizarre.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est un petit peu bizarre, même si effectivement la seconde période est meilleure que la première.
Vous en avez déjà parlé en Angleterre avec lui de ça, parce que c'est pas la première fois. C'est souvent qu'il fait ça.
Ouais, il explique souvent que c'est compliqué d'entrer dans un match pareil. Et je pense qu'il a raison. Hein. C'est vrai. On le voit souvent. On regarde le match de United contre Liverpool dimanche.
Modric, terrain, il fait 37 ans, il est plutôt pas mal rentré. Hein.
Oui, mais c'est pas pareil, parce que là t'es derrière au score et tu cours après le score. Et c'est je pense que c'est différent. Plutôt que de faire entrer un joueur quand tu mènes 3-2 dans un match pareil à l'extérieur au Bernabeu en Ligue des Champions, je pense que c'est pas facile. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'il l'a justifié. Après, je sais pas, tu peux faire parfois des choix qui seront payants. On a vu Arsenal et Arteta par exemple ce soir avec un bon coaching qui est payant. Parfois, ça marche pas vraiment pour toi. Lui, il préfère pas trop prendre ce risque-là. Il aime pas, en tout cas, prendre ce risque-là. Et ça peut se comprendre, même si là, je pense que Doku, par exemple, pour revenir sur ce que Manu disait, à un moment, vu comment les espaces s'ouvraient pour City, en ce période, quand le Real s'est attiré la lampe.
Le genre de fin de match que l'aurait pu faire mal,
il avait pris un jaune dans ce match en deuxième période. Mais un mec qui va le percuter, qui va le provoquer balle au pied, quoi. Le Grealish, il fait toujours la même chose. T'as même pas besoin de défendre, t'as juste à l'accompagner.
C'est pour le contrôle du match, Grealish. Grealish, c'est plus le joueur d'Aston Villa qui allait en 1 contre 1, qui devait dribbler les joueurs.
Il arrive
aujourd'hui, il est là pour contrôler le tempo. Mais non, mais là, il est pas là, il est pas fait pour ça, là. Il est pas là pour
dribbler. Sur les joueurs,
il est là pour contrôler le tempo des matchs.
Mais d'accord, Julien, mais dans le jeu de Guardiola, les joueurs excentrés,
c'est
des joueurs de provocation qui viennent créer des décalages, des percussions, et Grealish, il n'est pas dans ce tempo-là. Petite pub, on revient, Fred Hermel va nous rejoindre.
Il faudrait que Julien nous dise si ça commence à chauffer pour Haaland, parce que j'imagine que ce soir, les critiques vont être...
On va parler d'Haaland, ensuite on parlera d'Arsenal.
Il a un ballon.
Il n'a pas eu de ballon, et ça ne l'a pas empêché que Rudiger, il l'a mis dans son sandwich. Hein.
On est d'accord.
Il a pris les deux tranches de pain, il l'a mis au milieu.
Mais bon, quand il n'y a pas de bonus sur le terrain, c'est quand
même... Je sais, il est meilleur avec le bras.
Ça empêchera pas
le débat sur Haaland, gros
Daniel,
match ou tu es, quoi.
Ne sente jamais, même s'il va sur le côté, ne sente jamais.
Alors dans ces cas-là, qu'il revienne à sa vieille idée de jouer 109 alors. Hein.
Bah non, ils ont été champions d'Europe l'année dernière.
Allez, à tout de suite dans l'after pour continuer le débat.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h18, Manu Petit avec nous ce soir. Manu est là pour les grandes soirées de Ligue des Champions. Il a bien choisi son soir, Manu. Daniel Riolo est là, Julien Laurence avec nous, Fred Hermel avec nous également. Manu, toujours gros star en Angleterre, hein, Julien. On a vu encore sur Instagram là, qui donne des interviews pour expliquer sa carrière.
Qu'est-ce qu'il y a eu?
Why do you leave Arsenal, Manu? For a woman. On l'a vu, Manu, on l'a vu. On l'a vu.
Fois, j'ai pris mes décisions
on l'a
pour
vu.
Une femme, je me suis planté en fait.
Oui, parce que c'était le Barça, je crois.
Oui, entre autres, ouais. Mais mon retour aussi à Londres. J'avais le choix d'aller à Manchester United avec Sir Alex Ferguson, qui était venu deux fois à Barcelone.
Autre punchline de Manu, the grass is not greener somewhere else.
Exactement. Et d'ailleurs, à Kingston, ils te disent,
c'est beau,
quand jamais, quand on marche pas sur la pelouse. Tu sais ce qu'on en est.
Non, ce qui est génial dans cette interview, c'est quand le gars lui demande pourquoi t'as quitté Arsenal for a woman. Et là, le gars, il te regarde. Ah ouais.
Bah ouais. Exactement. Ouais.
Bon. Revenons à nos matchs, ne perdons pas de temps.
Donc, je demandais à Julien, est-ce que ça commence à chauffer pour Haaland, les critiques, là, ça commence à tomber ou pas? Ou est-ce qu'on fait encore un bilan mauvais, gros match?
Là, on est plutôt équipe Manu Petit. que équipe Daniel Riolo ce soir sur Allende en Angleterre pour l'instant. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'a pas été servi. Tu ne peux pas marquer un but si tu n'as pas un bon ballon.
Mais moi, je n'ai pas déterminé mon équipe.
Le gars, c'est pas un magicien.
Moi, je n'ai pas déterminé mon équipe du tout. J'ai juste demandé s'il y avait grosse critique là-dessus. Et comme j'entends beaucoup Allende, des gros matchs et tout.
On va attendre.
Et moi, je ne l'ai pas enfoncé. Je me demande si parfois il est réellement fait pour le jeu de cette équipe. Ça, c'est une question. Mais
ça, c'est sûr.
Pour ce qui est de ses qualités, après, écoute, l'année dernière, il a été essentiel dans la conquête du titre de champion d'Europe, quand même.
Ouais, non, mais alors,
il se fait manger au petit-déj par Rudiger.
Ah oui, bah oui, Rudiger, exceptionnel. Non, mais surtout que Rudiger, ce soir,
il a 20 touches de balle, 3 dans la surface du Real. Donc, il touche le ballon 3 fois dans la surface du Real en 90 minutes.
Ouais, mais même, des moments où Rudiger, il était à la puissance physique, mais à l'expérience aussi. Le placement de Rudiger, la manière dont il l'impressionnait, parce qu'en plus, c'est une belle bête.
C'est du marquage à l'ancienne.
Il prend pas de
Je prends le ballon, mais je mets le coude dans la gueule.
Exactement. Mais en plus, Rudiger.
Moi, j'aime ces défenseurs.
Rudiger, ce soir, il a dû beaucoup aider Tchouaméni, qui a pris un carton de la première minute. Donc, ça aussi, tu vois, il a soulagé en plus.
On aime bien en Espagne, Tchouaméni, défenseur central.
Mais même au milieu de terrain, on l'aime pas.
C'est faute de mieux, quoi.
Bah, c'était lui ou Nacho qui est vieillissant. De toute façon, la semaine prochaine, ce sera Nacho, parce que comme il est suspendu, Tchouaméni. Donc,
c'est-à-dire que les gens ne l'aiment ni en milieu de terrain ni en défense.
Non, c'est pas un jeu. Enfin, moi, c'est pas un joueur pour le Real, c'est tout.
C'est mais pas il y a un joueur qui enflamme les foules à Madrid, ça c'est vrai.
Alors que mon chouchou, oui, Camavinga. Le match de Camavinga, désolé les amis.
Sur le but de Foden.
Oui, petite hésitation sur le but de Foden, mais
je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi sur Camavinga ce soir.
T'as pas aimé ce qu'il a fait ce soir?
Ah non.
Ah d'accord. Bon bah.
Ah, je suis désolé.
Moi je trouve qu'il y a une grosse activité. Parfois c'est un peu brouillon, mais c'est quand même compensé parce que le gars il y va quand même. Hein, il se cache pas. Hein.
J'imagine.
56 touches de balle dans un match pareil sur 90 minutes. Je sais pas moi. Non, je suis désolé.
Non, mais défensivement il a fait 3. Un bout de malade. Il s'est projeté vers.
C'est pas le nombre de touches de balle qui compte aussi. C'est si non, tu la touches, tu la donnes vite.
Et combien de balles récupérées. Enfin moi je trouve qu'il était omniprésent. Pour moi, c'est après Rudiger, c'est le meilleur du Real, quoi. Enfin, c'est.
Je trouve qu'il y a 50% ses duels. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas non plus.
Attends, t'inquiète pas, il va rester au Real, il va pas aller en Angleterre.
J'ai bien aimé Rodrigo.
Après, il y a le but, il est pas accordé à Camavinga.
Non, mais ouais, mais le mec, il va.
C'est quand même lui qui fait 80% du truc.
Il sent qu'il y a une petite hésitation dans la défense. Là, personne vient sur lui.
Il égalise très peu, très très rapidement après l'ouverture du score. Donc, ils ont pas le temps de douter vraiment, même si un temps soit peu, ils arrivent à douter les Madrilènes.
C'est une frappe non cadrée. On est bien d'accord. On est frappe qui part en 6 mètres. D'accord. Ouais. Non, mais qu'on met ça bien.
Non, mais Fred, essaye d'encadrer. On essaie dans la télé, je dis
Fred, c'est pas grave. C'est une frappe d'encadrer. Elle sort de 3 mètres.
Mais non, moi, ce que j'apprécie,
elle sort
c'est
de 3 mètres.
Il a senti, et là, c'est sa lecture du foot, il a senti qu'il y avait une demi-seconde d'hésitation dans la défense de City et il s'est enfoncé.
D'accord.
Moi, je trouve ça bien.
C'est une frappe.
C'est un mec qui se cache, comme on dit espagnol, non, c'est
ce Si ce que voulait dire Fred, c'était que des deux Français, celui qui s'en sort le mieux, celui qui a l'air le plus à même de progresser, c'est plus Camavinga.
Bien sûr, mais Camavinga, tout le monde l'adore et tout le monde parle bien. Après, la grosse déception côté Real ce soir, c'est Bellingham. C'est. Alors là, les premiers commentaires dans la presse espagnole disent la semaine prochaine, on a besoin de Bellingham. Voilà. Parce que ce soir, il a pas fait un bon match.
Avec
il a beaucoup râlé.
Avec un grand Bellingham, tu gagnes le match. Mais en même temps, attention parce qu'il a quand même beaucoup couru.
Oui,
il s'est beaucoup dépensé parce que le Real a quand même couru principalement après la balle.
Bien sûr.
Ils ont quand même couru après la balle, donc c'est pas un match non plus où Bellingham va rayonner, va s'éclater parce qu'il a peu de ballons. Donc, je n'ai pas envie de le critiquer ce soir. J'ai pas envie parce qu'il a beaucoup travaillé au milieu. Et de toute façon, la façon dont a joué le Real, si on revient sur cette première période où ils ont quand même fait un énorme pressing en étant bloc bas et toutes leurs sorties de balle étaient ultra rapides et ne visaient que deux joueurs avec le relais Rodrigo Vinicius ou inversement. Et d'ailleurs, ils étaient en surperf hein, parce que à chaque fois qu'ils étaient à un contre deux, ils passaient. C'était impressionnant leur efficacité. Donc.
C'est dommage parce qu'il y a eu trois grosses occasions.
Le Real n'a pas été dominant.
Ah bah sûr que non.
Donc dans ces cas-là où tu joues avec une verticalité qui est toujours très très bien exploitée, je sais pas si Bellingham peut être génial dans cette équipe-là dans la configuration.
Mais il s'est trop énervé, il a beaucoup râlé contre le Pixier, mais après c'est un joueur, on arrive dans le Bellingham time dans le temps additionnel, il va marquer un but quoi.
Mehdi est là au 32-16 supporter du Real. Mehdi, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous, Daniel, Manu, bonjour. Fred,
salut. T'es d'accord avec ce que dit Fred là sur le Real pour l'instant ?
Ouais, je suis plutôt d'accord. Après moi, personnellement, je suis supporter du Real depuis environ 30 ans, depuis l'époque Redondo, McManaman, donc ça date.
Oui.
Et ouais, donc ça date.
Qui faisait de bons matchs à Manchester, mais dans l'autre, chez l'autre Manchester.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, ils arrivent encore à me surprendre, quoi. Parce qu'avant le match, j'étais avec des potes et je me suis dit, c'est bon, c'est mort. City vont confisquer le ballon, City c'est au-dessus. Moi, je regarde tout le temps les matchs du Real, encore contre Leipzig. Ton meilleur joueur, c'est Lounin, c'est le gardien. Tu dis, voilà, contre City, ça passera pas, quoi. Le début du match, ça démarre. Toi, Tchouaméni, déjà, qui joue pas à son poste. Premier ballon, il prend carton jaune. Bernardo Silva.
Oui, tu t'es dit, vous allez prendre un bouillon, quoi.
Ouais, à ce moment-là.
Ouais, bah, c'est bon.
Tu dit, ils sont plus forts au vu de ce que montrait le Real et du passé récent. Je suis d'accord avec toi. Ça peut être compliqué. Ouais. Donc, finalement, t'es un peu comme moi, le caractère de l'équipe t'a séduit.
Mais c'est incroyable parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans ce stade, il se passe des choses inexplicables. À chaque fois, tu dis non, ça arrivera plus, et à chaque fois, ça arrive. À chaque fois, ça revient. Ils vont te mettre deux buts en un quart d'heure. Le premier quart d'heure, il est fou. Franchement, les gars, le premier quart d'heure, il est fou. Il y avait une intensité de malade mental. C'était incroyable. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus choqué, en plus, Daniel, c'est le pressing qu'ils ont mis le Real. Comment ils ont réussi à faire déjouer cette équipe de City.
C'est vrai.
J'ai jamais vu Rodri perdre autant de ballons, moi.
Ouais. Attention, pour faire déjouer City, tu ne peux faire que ça et tu peux pas le faire haut. Parce que si tu le fais haut et qu'il te transperce,
oui,
t'es mort.
C'est ça.
Mais si tu le fais pas aux abords de ta surface, mais on va dire à 30 mètres de ton but et que tu le fais de cette façon et que t'es aussi efficace et qu'en plus t'as des joueurs sur qui tu peux, verticaliser vite, c'est le meilleur moyen de faire mal à City. Et ça, le Real l'a fait remarquablement bien sur la
Mais qu'est-ce que t'as pensé du match de Vinicius?
Ouais, incroyable, incroyable. Franchement, Vinicius, ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il peut, il te fracasse une défense. Parce qu'en fait, après City, ils avaient un peu le cul entre deux chaises. Ils savaient pas trop, on va aller chercher haut, on recule un peu pour pas laisser de profondeur à Vinicius et Rodrigo. Si vous voyez le deuxième but de Rodrigo, c'est ça. Ils veulent venir chercher haut. Vinicius fait une passe dans le dos de la défense.
Magnifique.
Magnifique. Et Rodrigo, il a une finition aussi extraordinaire. Parce que quand Akanji revient, tu te dis c'est fini, il va te mettre le ballon.
Un peu de réussite, Mehdi, quand même. Hein,
Ça se force, la réussite, Julien.
Oui, d'accord. De Rodrigo.
Mais l'action,
elle est très belle.
Elle a réussi.
Vinicius, qu'est-ce qui est décisif aussi pour.
Après, il chatte un peu, mais bon.
Peut-être, mais il a quand même de la chatte.
Et Gvardiol, il a jamais frappé comme ça.
Ça, c'est sûr. Ah, mais même Foden, hein. Mais bien sûr,
dans ce cas-là, il manque son contrôle, Gvardiol.
Bah, on est d'accord. Donc moi, je le dis, je suis objectif. Gvardiol, il a de la chance.
Non, mais je crois que Julien, il est énervé parce qu'il pensait que City allait gagner 4-0.
Tu peux lui dire qu'il a un peu châté, Rodrigo.
C'est toi qui racontes n'importe quoi.
Il provoque l'autre.
Rodrigo, il a de la chance.
Bien sûr, l'action, elle est magnifique. L'action, elle est belle.
Et on t'a pas parlé de l'action, on te parle qu'il a de la chance sur son tir.
Oui.
Bah, c'est la première fois que j'entends Julien s'énerver. Oui, d'ailleurs,
il rajoute un petit peu
dans sa cagnotte parce qu'il a une expression.
Il a remplacé chance par.
Ça fait
10 euros, ça.
C'est-à-dire que moi, comme j'ai jamais été footballeur, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les footballeurs et pour les très bons footballeurs et j'aime pas enlever du mérite aux footballeurs.
Oh, comme il a essayé de
se faire. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. À un moment.
Dans l'histoire de l'after, je me souviens de Kaka, tu es nul, Di Maria le poulet sans tête.
Oui, mais c'est avant
c'est
ça.
C'est avant que je devienne cet homme sale. Voilà. Mais je veux dire, à un moment, les trucs, ça se provoque.
Le poulet sans tête.
Quand tu dis, c'est quand tu dis,
le fameux, il
est con favorable parce qu'il a un peu plus que les autres. Bah ouais, tu vois, donc à un moment.
Et le compte Vinicius, c'était aussi avant, c'est à longtemps.
Et puis après, au bout de deux ans, c'est passé. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Vinicius. Mais oui, mais faut, voilà.
Non, mais la plus belle action, le plus geste technique de Vinicius, c'est la passe décisive pour le troisième.
Pour Valverde.
Alors on se demande d'où ça va venir.
Il a raté son centre.
Parce qu'on n'avait pas
tous les joueurs sans l'écran, en fait. Il l'avait bien vu.
Et la chatte de Valverde sur la reprise.
Ah, il a de la chance.
C'est magnifique. Mais Valverde, de toute façon, on reproche souvent à Valverde de pas assez frapper parce qu'il a cette frappe de mule.
Moi, je suis désolé, Vinicius, c'est un joueur extraordinaire. Parfois, il y a des choses que je ne comprends pas dans la politique sportive d'un club. Je ne sais pas. Parce que ça va se finir comme ça. Je ne sais pas pourquoi le Real veut absolument depuis toujours Mbappé.
Je suis d'accord.
Quand t'as Vinicius comme ça, que t'as Rodrigo, qui en fait, il faudrait qu'il prenne un 9, que t'as Bellingham, et que t'as un 9, ou alors
prends
un côté droit,
j'en sais rien.
Va chercher Mo Salah,
Daniel, il jouera jamais à gauche, Mbappé.
Ils vont s'arranger.
Sauf s'ils vendent Vinicius, ou alors il va falloir construire une attaque à deux, va falloir construire un milieu à quatre et une attaque à deux, une sorte de losange.
Tu vois le milieu de ce soir?
Non, mais en fait, le truc, c'est que tout est possible dans la construction, tu vas réfléchir, mais c'est juste que d'un point de vue politique sportive, je vois pas. Alors évidemment, si on me colle à ça des éventuelles données business sur les ventes qu'il va pouvoir faire, hein, mais sinon je ne vois pas ce que sportivement il va apporter de plus que pourrait apporter un vrai numéro 9 que le Real a pas vraiment. Si Rodrigo a fait super progrès. Et bon, écoute, j'aurais fait autre chose, moi.
Mais alors, tu sais, mais tu as raison, parce que là, tu as les deux versants de la politique du Real. Tu as le côté
Vinicius, parié,
parce que Vinicius, on pariait sur lui très jeune, hein, au Brésil. Ils l'ont acheté alors qu'il était, il avait pas encore le droit de venir en Espagne.
C'est quoi, Vinicius, il a peut-être pas une image internationale?
Non. Attends, je t'explique la politique sportive. Ils avaient misé sur Vinicius et Rodrigo, les mecs, ils avaient 16 ans. Tu vois ce que je veux dire? En disant, aujourd'hui, il y a des paris à faire sur de très bons joueurs. C'est Juninho Calafat, qui est le chef du recrutement, qui est un hispano-brésilien, qui les avait repérés. Aussi, il y avait Reynier, il y a aussi Hendrick. Voilà, il trouvait qu'il y avait des jeunes comme ça. Il dit, voilà, aujourd'hui, on veut parier.
Mais il est où sans... d'ailleurs, Hendrick, là?
Comment? Hendrick? Il est encore au Brésil. Il arrive cet été quand il aura 18 ans.
Reynier, il joue à Monaco, non?
Oui, pas mal.
Bah oui, mais donc il y a lui aussi, c'est
oui, il y a lui aussi, donc numéro 9. Il y a deux politiques. Le fait de miser sur des jeunes comme ça en faisant des gros paris.
Et d'un coup, la star.
Et puis, un coup de temps en temps, le Real a besoin, dans son histoire, c'est comme ça, de faire le transfert d'une très grosse star. Voilà, c'est tout. C'était Cristiano Ronaldo. Non,
mais je sais bien.
Mbappé.
C'est l'histoire et la politique, mais là, en l'occurrence,
Et il jouera où, Mbappé?
Au Real.
Oui, d'accord, mais
avec le numéro 10, bah, avec un maillot blanc.
Soit il sera devant, soit on construit en attaque à deux.
Mais oui, ce sera fluide.
Mais franchement, ils vont s'entendre, je pense que ce genre de joueur, t'inquiète pas.
Bon, pour conclure, le match retour, t'y crois, Fred?
Ah, mais moi, je suis incapable de donner dans un match comme sur ces deux équipes-là, je suis incapable de donner un pronostic. Bien sûr que j'y crois.
Bah,
bien
sûr. Une danse.
Oui, ouais, mais c'est franchement.
C'est pas 4-0, hein.
Ouais, 4-0, là, cette saison, c'est.
La dernière, City était vraiment injouable cette année.
Injouable.
Ils offrent des possibilités.
Vous dites quoi, vous, pour le retour, les gars?
Comment?
Vous dites rien?
T'as pas joué au tir au but, hein?
Moi, je trouve que c'est vachement indécis, ça reste du 50-50. Parce que je te dis, défensivement, City.
City dans son stade. C'est...
Ouais,
City,
on verra, les gars.
Je mets City un peu de
Skywalker.
Pour moi, c'est un 60-40.
On verra, les gars.
Pour moi.
Je suis pas aussi convaincu que ça.
Moi, je le sens bien. Aller au tir au but.
C'est pas comme si je t'avais dit 90-10.
Et je vois mal la répétition du même match que l'année dernière. Bon, moi, c'est...
Déjà, Ancelotti va pas faire la même compo suicidaire l'année dernière.
Avec City.
Julien, tu dis quoi, toi?
Quand ça se goupille pour eux.
Je dis City un tout petit peu favori, effectivement, parce que c'est à domicile, parce qu'il y a le match de la saison dernière aussi. Et surtout, si Kyle Walker revient, ce qui est possible, ils espèrent en tout cas côté City qu'il pourrait revenir pour la semaine prochaine. Même si, effectivement, il n'y a qu'une semaine d'écart entre les deux, hein, c'est pas facile.
Mais bon, Julien, je ne sais pas, aussi, mais City, à chaque fois que l'adversaire.
Et puis De Bruyne, il n'aura plus de gastro.
Sur sa première frappe, à chaque fois, il marque l'adversaire.
Ouais.
C'est souvent ça, cette saison.
C'est vrai, oui. Mais sur les deux premiers du Real, c'est les deux premières actions offensives du Real.
Pas de merci.
Merci. À demain pour
le Barça, bien sûr.
Ouais, c'est bien ça.
Julien, on te garde un peu pour Arsenal dans quelques instants. Pour le Barça.
Le cœur vibrera un petit peu moins, hein, monsieur Armel.
Demain. Je vous rappelle que je suis français avant tout.
D'accord, très bien.
Non, je déconne.
Franchement, je ne sais même pas entre PSG et Barça comment tu. Ça doit être assez affreux pour toi.
Non, je vis ça bien.
Le club que tu détestes le plus,
je sens
qu'il préfère Lille à
Lille,
Paris.
Lille PSG, il est pour Lille.
Je suis sûr qu'il met Lille devant.
Allez, à tout de suite à l'after.
Tu nous dis mon consent.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h36, Manu Petit et là, Daniel Riolo également. Jusqu'à minuit, c'est l'after avec Julien Laurence et avec Paulo Breitner. Paulo est-il parmi nous? Ah, il arrive, Paulo. Bon, en attendant, on va parler d'Arsenal alors, qui a été mené par le Bayern. Est-ce que tu estimes au final que le score reflète à peu près ce que tu as vu, Julien?
Ouais, c'était encore un match de fou, hein, sincèrement. J'avais les deux écrans, c'était assez beau à voir. Ce qui, dans un sens, vient ternir un petit peu la performance d'Arsenal, c'est les deux grosses erreurs sur les deux buts, finalement, parce qu'on parlait beaucoup d'expérience. Hier soir, on en a parlé avec Polo dans l'after, on en a parlé dans l'avant-match aussi. La seule chose qu'on ne savait pas finalement sur cette équipe d'Arsenal, à part le fait qu'elle joue très bien cette saison, qu'elle est très forte défensivement, que ça tout est bien huilé, tout est parfait.
Bah c'est comment elle élève son niveau en quart de Ligue des Champions.
Exactement.
Quoi.
Et à Porto, rappelle-toi, au match aller, à Porto, ils prennent une leçon en termes d'expérience en fin de match sur le but. Et là, c'est pareil. Le premier but, l'erreur de Gabriel, l'erreur de Raya, elle coûte très très cher. Même si après, c'est très beau. Hein, l'enchaînement,
moi, à un moment, j'ai encore cru qu'on allait ressortir le couplet des enfants. Hein.
J'ai encore cru qu'on allait ressortir ça.
Hein.
Le but, tu vois, le penalty, la course de Sané, elle est magnifique, la course de 50 mètres de Sané. Mais à un moment, un Rudiger, par exemple, à 30 mètres du but, il lui met un taquet par derrière, il prend un jaune, certes, mais il va jamais jusque dans la surface. Il y a jamais penalty. Et là, tu sens encore l'apprentissage d'un joueur comme Gabriel, d'un joueur comme Saliba, d'un joueur comme White, par exemple, même Rice au milieu de terrain. Et à un moment, c'est dommage parce que le reste, il y a plein de bonnes choses dans le reste. Le but de Trossard est magnifique dans la construction, le but de Saka aussi, le contre-pressing a très bien fonctionné, notamment les 20 premières minutes. Et après, c'est vrai que ces deux erreurs-là, elles te coûtent quand même très cher. Hein.
Manu,
ça que ce soit une belle équipe, c'est une belle équipe.
C'est une équipe qui a un manque d'expérience évident sur la Champions League, on le voit. Ça date pas d'aujourd'hui, surtout après leur retour en Champions League. Donc, c'est ce que j'avais dit en début de saison. J'avais dit le juge de paix sera justement leur progression en Champions League, qui est pour moi l'élite du football européen et mondial. Et s'ils veulent progresser en championnat, ils ont fait une progression constante en championnat depuis 2 ans, individuellement et collectivement. Maintenant, le plafond de verre, ça reste la Champions League. Mais sincèrement, quand je vois la saison qu'ils font, ils arrivent quand même en quart de finale face à un Bayern, même s'ils sont en tremblotant en championnat, ça reste quand même, à l'image du Real Madrid, des grosses cylindrées sur la scène européenne avec l'expérience que tu connais. Et l'expérience des joueurs du Bayern n'a pas d'équivalent face aux joueurs de l'Arsenal ce soir.
Bon, on a Kevin.
Le débat, c'est le penalty aussi. Hein. Le débat, c'est le penalty juste avant que Kevin Saliba intervienne sur Saka à la fin. Non, sur Saka.
Ah d'accord,
parce
qu'il y a Saka. Pas péno.
Donc voilà. Alors moi, je suis un peu comme toi, Manu. Non, alors moi, il y a un angle où j'ai l'impression que
il vient heurter Neuer sort très vite. Il stoppe sa course et c'est Saka qui vient.
Ah oui, qui met sa jambe.
Il laisse traîner sa jambe pour faire finir un contact.
Il y a un autre angle où t'as l'impression que Neuer quand même sort assez vite et que il le fait trébucher. Moi, je suis un peu. J'ai du mal à. Je sais pas trop en fait. Mais voilà, on en parle beaucoup.
Saka, il avait pour objectif d'éviter la sortie de Neuer sur son dribble pour chercher le contact.
C'est typique. Bah, c'est le football, l'interprétation. Et tu VAR ou pas VAR,
c'est très bien arbitré. Sincèrement, moi, j'aurais aimé qu'il y ait penalty pour les Gunners en fin de match. Mais Saka, il a beau râler à la fin du match auprès du corps arbitral, il y a pas péno. Parce que
ce qui est bizarre, Manu, c'est que s'il tombe pas, il marque. Hein.
Mais
s'il
c'est pour ça, je me dis.
Il fait crochet. Il est bête.
Pourquoi tu vas chercher? On voit bien que sa jambe droite, il allait se traîner pour chercher le contact avec Neuer. S'il reste sur ses appuis et qu'il continue son dribble, il a le but ouvert devant lui.
Ouais, c'est pour ça que je comprends pas qu'il s'il a voulu chercher un penalty, ça servait à rien puisqu'il était en bonne position
derrière. Parce qu'il était crevé, il manquait de lucidité, il était à bout de force. Regarde la tête des joueurs d'Arsenal à la fin du match, ils sont exténués les mecs.
Ah non, Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Bon, vu la dynamique actuelle du Bayern, je pense que là ils sont plutôt contents, non?
On peut voir ça comme ça. Enfin, c'est très très intéressant la rencontre de ce soir sans être un grand match.
Ouais, il peut avoir des regrets quand même, Polo aussi. Hein.
En fait, j'ai l'impression que ce soir, tu avais un ancien club, le Bayern Munich, qui a montré qu'on pouvait se qualifier pour une demi-finale de Ligue des Champions sans être forcément la meilleure équipe sur le terrain.
Alors moi, avant Polo, si tu me permets, avant que tu développes ce point-là, je te ramène juste un petit peu en arrière. Je te demande déjà, quand t'as démarré le match, bon, je t'ai entendu, je vois les performances du Bayern récemment, j'imagine que t'étais pas méga optimiste. Est-ce que rapidement tu t'es dit, bon, eh ben écoute, c'est la Ligue des Champions, il y a quand même une flopée de bons joueurs sur le terrain, ils vont peut-être y arriver. Est-ce que déjà la performance d'ensemble te rassure ou tu te dis, bon, c'est quand même le Bayern, quoi?
Ouais, alors il y a ça. Moi, c'est un peu ce qu'on disait avec Julien hier dans l'after, c'est-à-dire que c'est quand même un club qui est pour la 12e fois lors des 13 dernières années en quart de finale de Ligue des Champions, alors qu'Arsenal ne l'est pas systématiquement et ne l'était pas depuis un bout de temps.
Oui, ça, ensuite, je l'ai entendu dire ça. Ouais,
ensuite, Arteta est un fabuleux coach et je pense que ça va devenir un grand entraîneur. Mais je pense que cette équipe d'Arsenal, malgré le jeu fabuleux qu'elle produit, ce sont des jeunes joueurs qui manquent encore d'expérience. Et ce soir, disons-le très clairement, si White, arrière latéral, met le 2-0, je pense que le Bayern, c'est fini. Or, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'est Arsenal qui permet à Bayern, au Bayern de rester dans une possible qualification en donnant l'égalisation. Et il y a des choses qui sont passées. Je viens d'entendre Manu qui disait qu'Arsenal était fatigué après la rencontre, c'est vrai. Mais moi, j'ai senti qu'à la 75e minute, il manquait un peu d'essence dans le moteur, ce qui peut expliquer au passage la dernière action de Coman qui finit sur le poteau, etc. Mais ce qui est intéressant ce soir, bon, moi j'ai vu un Thomas Tuchel, enfin un Bayern version de Chelsea, Thomas Tuchel assez défensif, c'est-à-dire que on est là pour faire des comptes, on n'est pas là forcément pour jouer du jeu. C'était presque un Bayern des années 80-90, parfois un peu lourd, etc. Et puis on en parlait aussi lundi. On disait mais c'est qui le leader, c'est Moussiala, c'est Kane qui va faire. Mais ce soir le facteur X, c'est Leroy Sané, celui qu'on passe notre temps à critiquer parce que ça va pas, celui qu'on trouve extraordinaire lors des 6 premiers mois de la saison et qu'on ne comprend pas, qui est d'ailleurs, il y a un truc, enfin, vous savez, il est sorti à la 66e minute, les gens savent pas trop pourquoi, il a un problème de pubis en fait, il était pas là à Heidenheim ce week-end, et en fait il fait un match extraordinaire à lui tout seul. J'enlève pas la qualité de ce qu'a fait Arsenal, parce que le deuxième but, il est extraordinaire, la qualité technique d'Arsenal est supérieure à celle du Bayern, mais il y a quand même l'expérience dans cette compétition qui fait que pour sortir un monstre du football européen comme le Bayern, eh ben Arsenal ne peut pas se permettre.
Polo, tu trouves pas aussi que la sortie de Naibri a été préjudiciable avec la rentrée de Guerrero?
Mais le problème, c'est que ça arrive juste après.
Exactement.
La sortie de Leroy Sané, qui, je pense, est sorti parce qu'il a pas 90 minutes dans les jambes. Gnabry revient de blessure à jouer ce week-end et qui se prend, évidemment, il a un problème derrière la cuisse, et le banc est pas là. On voit Thomas Tuchel qui fait rentrer Guerrero. Je pense qu'il est pas tellement content ce soir, hein. Il aurait peut-être pu, continuer dans ces logiques-là. Moi, j'ai trouvé, honnêtement, encore une fois, c'est pas un grand, grand match. Mais il y a plein de choses, extraordinaires, pour les fans d'Arsenal en se disant cette équipe, on peut l'emporter à Munich. Mais comme je disais avant la rencontre, quand j'ai vu les cotes des bookmakers, c'était ridicule, quoi. J'ai dit, c'est pas quel crétin sort.
Parce que c'est la vérité du moment, en fait.
Mais je sais pas, il y a le facteur expérience qui joue. Les mecs, il y a encore un champion du monde qui joue, Manuel Neuer. Il y a un Harry Kane qui plante à but par match. Il y a plein de choses comme ça. Ensuite, encore une fois, ce soir, je pense pas que c'est le Bayern qui prend le point. Je pense que c'est Arsenal qui perd peut-être quelque chose à cause.
Je suis d'accord, Polo, mais je pense que le Bayern, à un moment donné, ils avaient la balle du 3-1 pour tuer ce match.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est. Ça serait la cerise sur le gâteau, tu vois, ça aurait été le truc.
On parle de la balle quand Leroy Sané part en contre, d'ailleurs.
Exactement, avant qu'ils sortent les deux attaquants.
Ou en fait, il arrive un petit peu à c'est vrai qu'il fait une longue chevauchée, donc il arrive un petit peu à court physiquement. Et je crois qu'il se sent pas de mettre la frappe parce qu'il a pas un méga angle et il veut faire un dernier crochet. Et c'est vrai que c'est ce contre-là, il peut être fatal.
Je dis, mais c'est dingue parce que, c'est des couches culottes qui se prennent une leçon, comme on a beaucoup parlé d'Arsenal en première ligue lorsqu'il gagnait pas le championnat, etc. Lorsqu'il rencontrait Manchester United, on se dit mais on en parlait avec Julien, on se disait la rencontre contre Porto, il s'est passé des choses quand même du côté d'Arsenal, même si encore une fois Arsenal était supérieur. Ce soir, moi j'ai vu un vieux Bayern un peu lourd parfois des années 80-90, mais il faut les sortir et c'est dur. Et alors moi c'est toujours du 50-50 pour le match retour. Je pense que vois très bien Arsenal l'emporter là-bas, comme Liverpool en 8e il y a 3-4 ans l'avait emporté sous Niko Kovac, etc. Mais le Bayern peut aussi passer. Maintenant, c'est Thomas Tuchel qui est fabuleux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passe en 4-4-1-1 en faisant rentrer Thomas Müller en se disant « Je vais décider de jouer un peu d'une façon différente, etc. » Faudra voir les blessés. Est-ce que je vais jouer de cette façon-là en se disant « Maintenant, finalement, Arsenal, ils sont trop forts pour nous, on va continuer à jouer les contres. » Ce qui n'est quand même pas tellement l'ADN du Bayern. Et ça, dans les prochaines heures et les prochains jours, on va en parler en Bavière, hein, de ce Bayern-là. C'est pas quand même flamboyant. On est loin du grand Bayern. Hein. C'est autre chose. Mais c'est un peu un match à l'ancienne qui m'a beaucoup plu quand même.
Tiens, on va conclure avec Kevin qui est supporter d'Arsenal. Salut Kevin.
Salut les gars, bonsoir.
Salut Kevin.
Bon, on t'écoute.
Oui, déjà j'ai un petit message pour Manu, juste dire merci à Manu. Parce que c'est
quand même... Je t'en prie Kevin, plaisir partagé.
Tu m'as fait aimer cette équipe, donc voilà, j'ai l'occasion de te parler, donc merci.
Tu as quel âge Kevin?
J'ai 37 ans.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais j'étais jeune, mais bon, je regardais les matchs et c'était... voilà. Bon, bref, mais en tout cas, voilà, je continue d'aimer cette équipe à travers les années et faut pas être cardiaque pour être un supporter d'Arsenal, mais j'étais plutôt confiant pendant le match quand même si le Bayern en première période a été très... très tranchant avec ces deux accélérations. J'ai quand même eu peur. Je me suis dit, tiens, à chaque fois que le Bayern accélère, on prend un but. Ça va être compliqué. J'ai pas compris tactiquement, par contre, aussi, pourquoi on s'obstinait avec Saka. Toujours côté droit. Il était pris à deux. Alors, d'accord, David savait un jaune, mais pourquoi continuer? On voyait pas Martinelli. Averse, vous en avez pas parlé d'ailleurs. Fantomas, mais voilà, moi je supporte pas.
Et Averse. Raya, t'en penses quoi?
Bah, Raya, c'est pareil. Raya Ramsdale, le débat, quoi. Mais.
Je pense qu'il va ressurgir demain encore le débat.
Ouais, on n'a pas fini.
Bah, Raya, le pénalty, en dehors du premier but qu'il concède, mais le pénalty également, j'ai pas compris en fait. Il part complètement côté droit.
Ouais.
Avant même que Kane.
Il y a un déséquilibre.
Ouais.
On disait mentalement, ce que disait Polo aussi, l'expérience et le mental. Bah, je suis désolé, Raya, mentalement, il n'était pas là. Hein. Il y a eu quelque chose. Hein. Il est très bon sur les relances. Bon, encore ce soir.
Mais sur le premier but, le positionnement de Raya, il est quasiment en rond central.
Mais oui.
J'ai pas compris ce qu'il fait là, quoi. Il a dû s'inspirer de ce qui se passait à Old Trafford ce week-end avec la perte de balle, avec le but de Fernandez. À un moment donné, je me dis.
Et le match de Saliba, les gars, Julien, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors moi, j'ai pensé qu'après l'ouverture du score, en plus de Saka, j'ai trouvé qu'ils se sont un peu enflammés en plus, nos amis Gunners là, commencé par même dans l'ambiance, dans le stade, c'était normal hein, que le stade ait explosé. Et que je sais pas, ils ont un peu perdu leur concentration, qui mène d'ailleurs aux erreurs de Raya, de Gabriel sur le premier but dont on a dit, hein, la sortie de Raya, la passe catastrophique de Gabriel vers Kivior. Et sur le deuxième but aussi, Saliba fait faute, il y a contact, c'est sûr, il y a faute, il y a penalty sur Sané. Je pense qu'ils ont un peu perdu pied à ce moment-là. Et pour William, oui, après quand le niveau s'élève comme ça, il faut répondre présent aussi. Et là encore, on parle d'apprentissage tout à l'heure, je pense que ça va pour William aussi.
Moi, je pense que d'ailleurs Arteta a rectifié le tir à la mi-temps puisqu'il a sorti Jorginho. Je pense que Arsenal avec Jorginho est très fort lorsqu'ils ont le monopole du ballon et qu'ils imposent un rythme à l'adversaire.
Pas quand c'est à la baston, quoi.
Exactement. Eh oui. Ou quand tu prends des vagues avec des transitions rapides. Et c'est là, en ce sens-là, où je vois qu'Arteta, il s'est rendu compte de son erreur et qu'il a repositionné après un milieu défensif vraiment d'expérience, qui est plus âpre au combat. Mais moi, j'aurais commencé avec Rice dans cette position-là, face au Bayern de Munich, en sachant les flèches qu'ils ont devant.
66e, Jorginho, Manu. Comment? Kivior à la pause et Jorginho 66e.
Voilà, mais Jorginho, je trouve que c'est un excellent joueur. Quand il est dans un siège où il peut contrôler le match, le tempo, il peut faire des roulements de passes et tout. Et avec ses passes laser, il peut casser des lignes, il n'y a pas de souci. Comme il l'a fait lors du précédent match à Brighton.
Il y a quelques années, il était même capable, dans les gros matchs intenses au milieu, en 2021, il est extraordinaire. Mais il a toujours besoin quand même de quelqu'un à côté de lui. Quand ils sont champions d'Europe avec Chelsea, il y a Kanté à côté de lui.
Exactement. Mais même avec l'Italie. Hein,
même avec l'Italie, effectivement, il y a Barella à côté de lui, qui court énormément, qui nettoie. Mais quand c'est un match comme aujourd'hui, il a plus de mal. Ouais.
Kevin, un truc à rajouter?
On n'a pas parlé non plus, mais malheureusement, on a quand même pas mal de joueurs qui peuvent pas faire une heure sur le terrain, parce que sinon, Jésus, tu le fais débuter, mais il se blesse tout le temps, il n'arrive pas à tenir une et puis pareil pour Partey, parce que tu parlais de Partey, en fait, Manu aussi, mais Partey, c'est pareil, on a trop de joueurs, on n'a pas un vrai neuf, et puis de l'autre côté, on a des joueurs qui peuvent faire des bouts, donc pour moi, ça peut pêcher au match retour, on verra.
Ce qui m'inquiète surtout, c'est que j'ai vu des joueurs à l'issue du match, mais exténués,
En même temps, attention, il n'y a pas beaucoup de turnover dans cette équipe. C'est une équipe Arsenal qui est leader de Première Ligue, qui est en train de livrer une baston incroyable contre Manchester City et Liverpool pour le titre.
Les matchs précédents, là, Arteta, il a fait du turnover.
Je crois, Manu, honnêtement que si tu demandes à tous les supporters d'Arsenal en Angleterre, et tu le sais mieux que moi, tu leur demandes aujourd'hui, on est champion ou on en a rien à foutre, on se fait sortir par le Bayern, je pense qu'ils prennent le titre de champion.
Mais évidemment. Ouais.
Ah, donc, à un moment, ça pèse quand t'as un effectif qui est pas hyper étendu, que l'entraîneur fait confiance principalement au même,
aussi, Daniel.
Que les mecs sont un peu jeunes, bien sûr, parce qu'il y a une histoire, il y a un contexte, il y a l'envie de voir Arsenal
et dernière,
champion,
dans la dernière
parce que
droite.
ça fait beaucoup trop longtemps, parce que ce sera un renouveau, et je pense que c'est la priorité de ce club, c'est la priorité.
Merci Julien, merci Polo.
Merci, ciao.
Merci les gars.
Ciao les gars. Ciao. Merci à Kevin, le 32-16. Dans un instant on revient avec les infos de veille de match à Paris.
Dans chaque club, qu'est-ce qui est la priorité? Par exemple, le Bayern aujourd'hui, c'est ça. Le titre, ils savent que c'est foutu.
Ah oui, ils reportent tout sur la Champions League.
Ouais. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilbert Brisbois.
Salut Petit, Daniel Riolo, ils sont là jusqu'à minuit, les gars, demain. PSG Barcelone. Petite passe d'armes marrante aujourd'hui entre Luis Enrique et Xavi. Question d'un journaliste espagnol à Luis Enrique. Mais qui de vous deux incarne le plus l'esprit Barcelone? Réponse de Luis Enrique. Je vous la fais. Bon, on va l'écouter, tiens.
Sans aucun doute, moi, c'est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça, même si d'autres pensent différemment.
Alors, je retraduis, parce qu'en fait, la traduction est manque à vous. Il répond, bah, c'est moi, et d'ailleurs, c'est pas une opinion, ce sont des faits. Voilà ce que dit Luis Enrique.
De toute façon, c'est comme tous les convertis, ils sont plus royalistes que le roi.
Et Xavi, un peu plus tard, arrive.
Comme c'est pas un Catalan au départ, c'est pas un Barcelonais au départ, et que c'est un d'adoption, il veut absolument incarner absolument ça.
Et Xavi arrive un peu plus tard en conférence de presse. On lui dit, bah voilà ce qu'a dit Luis Enrique. Réponse de Xavi, oh bah vous le connaissez, il est comme ça. Mais bon, j'ai dû rester pour lui. Xavi.
En fait, ils peuvent pas se blairer les deux.
Xavi qui dit quand même, nous avons tous les deux l'ADN Barça.
Il est pas très aimé, mais quand je le dis, je passe pour un mec en fixette, mais bon.
Il dit, nous avons tous les deux l'ADN Barça. Sympa, hein. Pareil pour Arteta et Guardiola, et nous sommes tous les quatre en quart de finale. Et ça, c'est vrai qu'il faut quand même remarquer ça. Mmh. Arteta, Guardiola, Luis Enrique et Xavi.
Ils n'ont pas tous la même personnalité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que parce que tu es dans la même classe, tu es pareil. Hein. C'est pas la même chose. Tu peux avoir subi un même enseignement.
Mais en fait, il répond à ce genre de réponse. Quoi. C'est presque un scud qu'il veut mettre à Xavi, en fait.
Moi, je ne sais pas. De toute façon... Je sais pas, moi. Quand ils parlent, qu'ils disent des trucs comme ça, mais à aucun moment, il a plutôt cherché à nous
expliquer. Ils ont joué ensemble, Luis Enrique a entraîné Xavi.
Si, ils ont un contentieux, parce qu'à l'époque.
Il a fait une carrière, il le mettait sur le banc.
Il l'a mis sur le banc, ça s'était mal passé quand il faisait confiance à Rakitic. Mais néanmoins, il l'avait fait rentrer à la finale en 2015, Xavi, pour lui offrir une sortie honorable. Mais bon, de toute façon, ils s'embrouillent avec les joueurs, de toute façon, surtout les joueurs qui ont du caractère et qui sont forts dans un club, ils s'embrouillent tout le temps avec.
Bon, alors, le temps
et
passe
c'est
vite.
C'est comme ça, il fait partie de ces entraîneurs-là, on le sait. Et nous, encore, on n'a pas découvert ça.
On n'a pas de compo pour demain.
Enfin, on l'a découvert, mais certains ne veulent pas le
parce
voir.
Parce que Luis Enrique, les compos, c'est compliqué, de toute façon, mais on sait qu'il y a
des en revanche, ça n'explique pas, ils préfèrent parler d'autres choses, parce que là, tu as tous les coachs, Ancelotti, Guardiola, qui défilent, qui racontent le match, machin, lui.
Ouais. Deux incertitudes quand même, qui va jouer avec Mbappé devant et est-ce que Marquinhos va jouer ou pas? Voilà, ça c'est les deux incertitudes. Les deux
est-ce que Marquinhos va jouer à droite?
Oui.
Mais si tu suis les raisonnements de Luis Enrique, qui est de tout préparer à l'avance, de faire 150 000 essais pour réussir à mettre quelque chose en. Pardon?
Donc tu vois ça y est, moyen au côté droit alors?
Je termine, après tu me donneras ton avis.
Bah, je sais pas. Si...
Mais non, mais comme tout le monde dit, il fait des essais, il est génial parce qu'il fait 1000 essais, il prépare toutes les éventualités. Comme il n'a jamais essayé Marquinhos à droite, si jamais il le met à droite demain, on aura le droit. Je sais pas, hein, moi je demande l'autorisation de trouver des trucs bizarres, puis après je me fais taper dessus. Donc je sais pas. Donc la logique voudrait qu'il ne le mette pas dans son raisonnement à lui. Et pourtant, je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà dit hier
qu'il va le mettre,
que c'est comme ça que ça va se finir. Et en plus, je pense que ce serait la meilleure idée, si c'est mon avis. Donc finalement, s'il prend la meilleure idée, je serais ravi pour le PSG. Je préfère voir Warren au milieu que carrière droit. Mais bon.
Il nous reste une minute pour vous donner les infos.
C'est toujours la différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
Bon. Les infos concernant Marseille, Benfica Marseille jeudi.
Ah oui, il y a un vrai gros problème là.
Ce soir, Benfica a annulé. Et a priori, c'est illégal, hein. Enfin, c'est ce qu'on dit à Marseille. A annulé illégalement, donc a priori, les billets marseillais. Beaucoup de Marseillais sont déjà à Lisbonne. Les supporters marseillais.
D'autres ont réservé les hôtels, d'autres ont réservé les avions. Soir, en fait, c'est hallucinant comme situation.
Les groupes marseillais font savoir ce soir que de toute façon, tout est réservé, donc ils y vont.
Mais non, mais en fait, c'est fou.
Mais attends, nouveauté ce soir quand même. On apprend qu'à la préfecture des Bouches-du-Rhône, on a suspendu la possibilité d'un arrêté pour l'interdiction de supporters. Donc en fait, si on va au bout de la logique, peut-être que. Il y a eu discussion entre le club et la préfecture en disant n'interdisez pas l'avenue des Portugais parce que nous on va se retrouver avec des milliers de Marseillais dans les rues de Lisbonne et en gros ça risque d'être de poser un vrai problème.
Ça peut poser un problème de sécurité.
Donc voilà où on en est ce soir.
Débloquer la situation pour que les mecs aillent au stade et en espérant que après ça exclut pas les problèmes parce que la police à Lisbonne c'est bouillant.
Est-ce qu'il y a une menace terroriste aussi là-dessus ou
C'était visiblement les matchs de Ligue des Champions.
En fait ce qui se passe c'est que si la préfecture du Bouches-du-Rhône interdit aux Portugais de venir, on craint qu'il y ait des représailles sur les Marseillais qui seraient présents dans les rues. Donc en fait, le bon sens voudrait qu'on autorise les Portugais à venir afin que les Marseillais puissent rentrer au stade.
Eh oui.
Voilà.
Là, oui, t'as quand même beaucoup de Marseillais qui sont déjà sur place dans les hôtels, qui ont payé, qui ont engagé des frais. Demain, tu leur dis, tu vas pas au stade, tu sais pas. Mais soit tu prends la décision, tu sais qu'il y a un problème. 15 jours au moment du tirage, ou j'en sais rien, au moins une semaine avant. Ne prenez pas votre billet, ne réservez rien, vous pourrez pas venir. Là, après, si les mecs viennent, bon, alors là, après, c'est pour leur gueule, quoi. Mmh. Mais là, à partir du moment où t'as des gens sur place, t'annonces ça 24, 48 heures avant, c'est pas possible. Mmh. Les gens, ils ont payé leur déplacement, ils ont mis de l'oseille. Là, en revanche, c'est vraiment con, quoi. Mmh.
On aura plus d'infos demain, c'est sûr. C'est fini, merci Manu.
Merci les gars.
À demain.
Merci Daniel. Demain, grande soirée jusqu'à 1h30 du matin sur RMC After Live à partir de 20h. Et puis l'After et puis la Libre Antenne. Et on sera tous au Parc des Princes pour cette grande soirée. À demain soir.
RMC, l'After Foot.